Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
We will never give up, we will never concede, it doesn't happen.
Il ne lâchera rien, vous venez de l'entendre. Donald Trump est toujours persuadé d'avoir gagné la présidentielle.
Et il l'a une nouvelle fois martelé il y a quelques instants devant ses partisans à Washington, alors que le Congrès est en train d'entériner la victoire de Joe Biden.
En France, le gouvernement accusé de lenteur sur sa politique vaccinale cherche à reprendre la main.
Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin avant une conférence de presse très attendue de Jean Castex demain soir.
Le porte-parole du gouvernement promet que nous allons passer la seconde. On verra s'il faut s'attendre à des annonces concrètes.
On pense notamment aux restaurateurs et au monde de la culture très impacté.
Et on sera d'ailleurs en direct avec Anne Roumanoff, l'humoriste préférée des Français et des auditeurs d'Europe 1 qui, comme tous les artistes, est bien sûr privé de scène.
Le coup de massue également ce soir pour les salariés de Michelin. Le géant du pneu va supprimer 2300 postes en France.
L'Allemagne veut davantage de femmes dans les directions des grands groupes. Elle veut imposer des quotas. Au fait, on en est où chez nous en France?
On en parlera donc. La répression s'abat de nouveau sur Hong Kong avec le plus grand coup de filet mené par Pékin au nom de la loi sur la sécurité nationale, nous dira Didier François.
Et puis le foot, c'est la reprise de la Ligue 1 et notamment les débuts du nouvel entraîneur nantais, Raymond Domenech. Les Canaries qui affronteraient, on sera sur place.
Elle n'est pas nouvelle sur Europe 1. Anissa est avec nous pour un coup d'œil au temps. Toujours une journée bien froide, ma chère Anissa, demain.
Oui, avec de nombreuses gelées matinales, hein, nous aurons jusqu'à moins 10 degrés dans les Hautes-Alpes demain matin. Dans le sud, la journée sera lumineuse. Ensoleillé, c'est gris et hivernal au nord. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord donc, jusqu'au bout, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite.
Oui, alors qu'en ce moment, le Congrès est en train d'entériner la victoire de Joe Biden, le président sortant devant ses partisans ce soir à Washington affirme une nouvelle fois, c'est à peine croyable, qu'il a gagné, Xavier Yvon.
Oui, une victoire qu'on lui a volée, martèle Donald Trump, toujours aussi combatif devant ses partisans en pamoison. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite, dit-il. Il répète ses accusations de triche, rejoue la nuit électorale. Nous avions une avance énorme et puis au matin, la remontée de Joe Biden.
Boom, these explosions of bullshit.
Boom, une explosion de conneries. C'est comme ça que le président sortant qualifie le processus démocratique américain. Son discours et le rassemblement de ses fans sont d'ailleurs un ultime effort pour tenter d'inverser le résultat. Car à l'autre bout du mall de Washington, au Capitole, le Congrès a commencé la certification de l'élection de Joe Biden, cérémonie présidée par l'actuel vice-président Mike Pence. Donald Trump lui a remis la pression pour qu'il annule les votes dans les États qu'il conteste.
And I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election.
Et j'espère que Mike va faire la bonne chose, parce que s'il le fait, nous gagnons l'élection. Sauf que le vice-président n'a aucun pouvoir en l'espèce dans cette certification. Il n'a qu'un rôle protocolaire. Alors il y a bien une poignée d'élus républicains qui a promis de retarder le processus. Les autres, ceux qui vont confirmer Joe Biden, sont faibles, pathétiques selon Donald Trump, qui accuse tout le monde de s'être ligué contre lui. Les démocrates, bien sûr, les médias et même les juges de la Cour suprême qu'il a lui-même nommé.
Jusqu'au bout donc. Merci Xavier Yvon.
Sympa avec ses copains, le président sortant américain. Chez nous en France, beaucoup de questions au menu du nouveau Conseil de défense sanitaire ce matin, mais pas beaucoup de réponses, en tout cas pour l'instant.
Oui, on en aura peut-être demain avec l'intervention de Jean Castex, notamment quel calendrier pour la réouverture des bars, des restaurants, des cinémas, des théâtres, des salles de sport, des remontées mécaniques dans les stations de ski. Jusqu'à quand va-t-on maintenir un couvre-feu avancé dans 15 départements? Y en aura-t-il d'autres? On suivra bien évidemment sur Europe 1 cette conférence de presse du Premier ministre à partir de 18h.
Jean Castex qui reviendra aussi sur la stratégie vaccinale de la France, accusée de lenteur. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a déjà fait quelques annonces à ce sujet, Adrien Beck.
Oui, le gouvernement en est conscient. Il faut reprendre la main après une dizaine de jours de flottement. Emmanuel Macron a d'ailleurs été très clair durant le Conseil des ministres ce matin. Nous n'avons qu'une option sur la table, réussir. Voilà pourquoi, en plus des personnes vivant dans les EHPAD, s'ajoutent ces dernières heures les 75 ans et plus, les aides à domicile de plus de 50 ans. Ajoutez à cela des centres de vaccination, 500 d'ici deux semaines, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Nous allons multiplier le nombre de centres de proximité pour les soignants et bientôt pour les personnes âgées de plus de 75 ans en population générale. Ainsi, depuis ce matin, le nombre d'hôpitaux pouvant vacciner a été multiplié par 3 et nous ouvrons 100 centres destinés à la ville. Ce n'est qu'un début, nous en ouvrirons 300 la semaine prochaine et 500 celle d'après.
Voilà, il s'agit maintenant de montrer l'accélération, de la matérialiser. Il en sera bien sûr question demain lors de la conférence de presse de Jean Castex, avec une bonne nouvelle également aujourd'hui, l'arrivée d'un nouveau vaccin, celui de l'américain Moderna, même si la France n'en recevra à ce stade que 500 000 doses par mois.
Explication signée Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Effectivement, c'est la bonne nouvelle du jour. L'Europe dispose désormais d'un deuxième vaccin.
Puisque Bruxelles a donné son feu vert à celui de l'américain Moderna après approbation par l'Agence européenne des médicaments.
Vaccin qui a pour particularité de se conserver plus facilement que celui de Pfizer-BioNTech. Alors on sait que les Français ont une certaine défiance vis-à-vis de cette vaccination. Eh bien, une quinzaine de personnalités du monde médical ont décidé aujourd'hui de se faire vacciner. Pour l'exemple, les professeurs Axel Kahn, par exemple, ou René Friedman, et le médiatique médecin Michel Simès, interrogé par Romain Oquet juste après l'injection.
Comment ça s'est passé ?
Écoutez, comme une vaccination normale, on ne sent pas l'ARN messager passer et aller dans mes cellules pour modifier mon patrimoine génétique. Tout va bien. Alors c'est de la médiatisation, c'est comme Morissette, c'est machin, il y a les télés, il y a les radios puisque vous êtes là. L'idée, elle n'est pas de se médiatiser, l'idée, elle est de dire, voilà, tous ces gens qui sont ici l'ont fait et je n'ai pas des branchies qui sont poussées depuis que je me suis fait vacciner. Là. Il n'y a pas de problème, j'ai mal nulle part, etc. Il n'y a pas d'autre alternative. On a vu que les médicaments ne fonctionnaient pas. Il n'y a que le vaccin qui va nous sortir de là et donc on le fait pour dire aux gens, allez-y, on l'a fait, faites-le.
Et montrez-moi, on vous délivre du coup ?
Oui, on me délivre, j'ai un bon point. C'est une attestation, voilà. Je ne sais pas si ça me servira un jour, mais en tout cas, ce que je vais faire, je peux vous dire, c'est que je vais l'encadrer et que je vais la mettre dans mon bureau.
Je croyais qu'elle allait dire « Montrez-moi si vous n'avez pas de branchie, oui. Romain Oquet ».
Elle aurait pu.
Le coup de massue pour les salariés de Michelin. Le fabricant de pneus va supprimer 2300 postes en France dans les 3 ans à venir.
Oui, Aurélien Fleureau, ce plan, hein, les syndicats le redoutaient, mais ils sont quand même surpris par l'ampleur du chiffre annoncé.
Oui, puisqu'après la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon, ils savaient qu'il y aurait d'autres restructurations, notamment qu'un audit interne visait les emplois tertiaires, c'est-à-dire les fonctions support et la recherche et développement. Mais ce qui a surpris l'ensemble des syndicats aujourd'hui, c'est bien ce nombre de suppressions envisagées et surtout que cela concerne également les usines pour 1200 des 2300 postes. Jean-Paul Cognier, secrétaire général de la CGT Michelin à Clermont.
Michelin continue de supprimer des emplois dans l'industrie en France. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Même si c'est des départs anticipés à la retraite, même si Michelin dit que ce sera des départs volontaires, il y a toujours une partie de fabrication de volontariat dans les grandes entreprises.
Pour la direction, ce plan de simplification doit permettre de faire des gains de productivité, 5% par an. Il répond à un besoin de se spécialiser dans le pneu haut de gamme notamment, mais aussi à la nécessité de diversifier les activités de Michelin, l'hydrogène avec une usine de fabrication de piles à combustible ou encore l'impression 3D, avec un objectif qu'en 2030, 30% du chiffre d'affaires soit issu d'activités hors pneus. Pour l'instant, c'est 5%.
Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
L'Allemagne a beau être dirigée depuis 15 ans par une femme, la direction des grandes entreprises reste trop souvent le domaine réservé des hommes. Eh bien, ça va changer.
Ça doit changer, hein, dit Angela Merkel, qui a présenté ce matin un projet de loi imposant des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Alors à ce propos, et chez nous, Olivier Samin, les femmes sont-elles mieux représentées dans les états-majors des entreprises ?
Eh bien oui, sur ce sujet au moins, on peut servir de modèle aux Allemands avec l'adoption il y a tout juste 10 ans d'une loi, la loi Copé-Zimmermann, qui imposait aux grandes entreprises ayant leur siège social en France d'avoir au moins, à la date du 1er janvier 2017, 40% de femmes dans les conseils d'administration. La règle visait les entreprises cotées et au-delà, toutes les entreprises de plus de 500 salariés qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Pour que cette règle soit suivie des faits, la loi prévoyait non seulement la nullité des nominations ne respectant pas ce quota, mais aussi la suspension du versement des jetons de présence. Et ça, visiblement, ça a été efficace. Aujourd'hui, tous les groupes du SBF 120 qui ont leur siège en France respectent les 40% de femmes. Le taux moyen est même de 43%, ce qui fait de la France la championne d'Europe. Il y a quand même encore des progrès à accomplir, en particulier parce que les femmes ont encore du mal à s'imposer dans les comités de direction, là où s'exerce véritablement le pouvoir. Dans les 120 plus grandes sociétés cotées, leur présence au sein des comités exécutifs n'est que de 18% en moyenne, avec trop peu de femmes directrices générales ou PDG.
Il y a encore du boulot, les précisions d'Olivier Samin.
Absolument. 18h08, la suite du journal. C'est un coup de filet d'une ampleur exceptionnelle qu'a lancé ce matin la police chinoise à Hong Kong. Elle a interpellé chez eux pas moins de 53 opposants pro-démocratie.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Avec cette vague d'arrestations, Didier, la Chine affiche sa volonté de museler tout mouvement de protestation dans la péninsule.
C'est ça, Pékin a clairement choisi la démonstration de force avec pour objectif de faire passer définitivement Hong Kong sous le joug de son appareil sécuritaire. Ce sont désormais les méthodes de répression les plus brutales, déjà largement utilisées par le Parti communiste sur le reste du continent, qui s'appliquent à la petite péninsule. Les autorités chinoises ne respectent plus et ne respecteront plus les quelques libéralités politiques et judiciaires accordées à la région autonome lors de sa rétrocession par la Grande-Bretagne. En 1997. C'est ça le véritable sens de cette rafle organisée avec des moyens de police considérables, des dizaines d'agents en civil qui ont déboulé à l'aube de manière simultanée chez tous les principaux militants des droits de l'homme, élus du Parlement local, conseillers de district, directeurs de journaux de télévision, professeurs d'université et même un patron de restaurant où les dissidents avaient leurs habitudes. Cela alors qu'aucune manifestation, pas le moindre rassemblement, n'était prévu dans les jours qui viennent. Il n'y avait donc pas de risque d'émeute ou de débordement qui aurait éventuellement pu justifier ces 53 inculpations comme étant une opération préventive de maintien de l'ordre. Rien de tout ça. Ce que reproche en fait Pékin à l'opposition hongkongaise, c'est de s'être unifié, d'avoir organisé des primaires entre tous ces courants pour désigner des candidats communs aux futures élections du Parlement régional. Et puis surtout d'avoir été capable de mobiliser plus de 10% des électeurs de la péninsule dans cet exercice de démocratie appliquée.
C'est quand même stupéfiant, François. Comment les Chinois, Didier, comment les Chinois parviennent-ils à se justifier ?
Eh bien simplement, ces primaires pour eux sont une consultation non officielle, donc illégale. Elle relève de l'incitation à la subversion. C'est le motif qui était écrit en toutes lettres, en tout cas en idéogramme, sur les mandats d'arrêt de la sécurité d'État, puisque ce sont ces agents qui ont désormais charge de la répression à Hong Kong, depuis l'adoption par le Parti communiste d'une nouvelle loi sur la sûreté nationale en juin dernier. Ce qui d'ailleurs en dit long sur les faiblesses du système chinois, qui ne peut pas se permettre de laisser l'opposition démocratique emporter une victoire, même si elle n'est que symbolique, même à des élections locales et même dans un parlement régional sans véritable pouvoir.
Et ben je vais le faire dans le bon ordre. Merci Didier François. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Avant d'aller jeter un œil sur les terrains de foot pour cette journée de reprise de la Ligue 1, comme promis, nous accueillons maintenant en direct quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Bonsoir Anne Romanoff.
Bonsoir.
Humoriste préféré des Français. Alors si on avait envie de vous avoir en ligne ce soir, Anne, c'est parce que votre spectacle Tout va bien sera diffusé tout à l'heure à 21h15 sur TMC. Il n'y a pas de salle de spectacle pour l'instant, mais heureusement il reste la télé. Hein.
Bah oui, parce que c'est un spectacle qui a été filmé à l'Olympia il y a un an, au décembre 2019, donc c'est mon dernier spectacle. Et ça me fait plaisir que les gens le voient, parce que je suis privée de scène depuis un petit moment, comme beaucoup d'artistes. Et voilà, j'espère que ça va distraire le public.
Ça vous met le blues, justement, Anne Romanoff, d'être privée de scène, et puis que la culture n'arrive pas à s'exprimer normalement en ce moment ?
Ben, bien sûr, comme tout le monde, bien sûr. Oui. Je peux pas dire que je... Voilà, au début, on se dit ça va passer. Voilà, on va dire de mars à juin, moi, j'étais très occupée, j'ai fait une association, et donc j'étais à fond, et voilà, je me suis dit, c'est un moment à passer. J'ai retrouvé la scène avec plaisir cet été, j'ai repris, cet été, en octobre, et là, voilà, quand ça s'est à nouveau arrêté, c'est voilà, et à un moment, on trouve tous le temps long, et puis surtout, on ne sait pas, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on ne donne pas de date. Quand Rosine Bachelot dit qu'il n'y a pas de visibilité, ben, je comprends que c'est une situation compliquée, mais voilà. Et puis c'est vrai que quand on prend l'avion et qu'on voit tous ces gens agglutinés, on se demande la différence avec une salle de spectacle, un siège sur deux. Mais bon.
Vous parliez de cette association, Anne, pour laquelle vous vous êtes énormément mobilisée pour le personnel soignant. Ça s'appelle Solidarité Soignant. Ça vous a demandé énormément d'énergie.
Avec les soignants.
Avec les soignants, oui. Est-ce qu'il y a toujours autant de solidarité, justement, envers ces personnels que l'on n'applaudit plus désormais à 20h ?
Alors, il n'y a pas l'élan du grand public qu'il y a eu pendant le confinement. J'ai vu parce que j'avais une cagnotte en ligne, donc à un moment, les gens... Voilà. Mais maintenant, on fait tout un travail vraiment en profondeur sur l'équipement de salles de repos des soignants et on travaille avec des fondations. On peut faire tout un travail aussi un peu plus long terme pour équiper les salles de repos. Et je ne soupçonnais pas que les salles de repos des soignants étaient dans cet état-là. Je suis assez choquée des photos que je reçois. Je suis contente de pouvoir agir à mon petit niveau pour faire un peu bouger les choses.
Eh ben, coup de chapeau, Anne Romanoff. Coup de chapeau à vous et à tous nos soignants, effectivement, qui font un boulot formidable. Merci, Anne. On vous retrouve donc ce soir sur TMC. Rendez-vous est pris 21h15 et tous les jours sur Europe 1, évidemment, pour votre émission. Ça fait du bien tous les jours entre 11h et 12h30.
Et puis, comme promis, Julien, on va faire un détour par Nantes pour le foot. Nantes, où Raymond Domenech fait ses débuts en tant qu'entraîneur ce soir pour ce premier match face à Rennes. Loïc Folliot, vous êtes en direct. Le coup d'envoi a été donné il y a un peu plus de 10 minutes.
Absolument. absolument 14 minutes pour être précis, toujours 0-0. Et vous l'avez dit, c'est évidemment l'une des attractions de la soirée, le retour de Raymond Domenech sur un banc de touche. 10 ans et 3851 jours après sa dernière expérience calamiteuse, le fiasco de Nice Now, on s'en souvient tous, en Afrique du Sud. 27 ans même après avoir dirigé son dernier match au sein de l'élite du foot français, le 17e entraîneur de l'Erquita vient d'arriver au chevet d'un grand malade, on peut le dire. Raymond Domenech est arrivé avec le sourire à la Beaujoire tout à l'heure. On verra si le nouvel entraîneur nantais réussit là où tous ses prédécesseurs ont échoué sous l'Erquita.
Rassurez-moi Loïc, le grand malade c'est Nantes, c'est pas Raymond Domenech.
C'est le FC Nantes, on est bien d'accord.
Simplement pour clarifier, merci à vous.
Et on fera des points réguliers évidemment sur les matchs de la soirée dans vos prochains rendez-vous d'information sur Europe 1 avec Julien Pierce et notamment les débuts d'un autre entraîneur. On parlait hier soir de Mauricio Pochettino. Le PSG se déplace ce soir à Saint-Etienne à partir de 21h15.
Parce qu'il y a Anissa qui nous regarde, elle connaît ça par cœur. Alors les prononciations,
quand il était joueur, on disait Pochettino et maintenant qu'il est entraîneur, on dit Pochettino.
Ben voilà. C'est lui qui a demandé qu'on l'appelle
comme
ça.
Exactement.
Et peut-être qu'un jour, on dira Anissa pour Anissa. Peut-être qu'un jour.
Pourquoi
on regarde un coup d'œil à la météo avec vous.
Oui. We'll be right back.